Bonjour tout le monde. Je m'appelle Barbara Filler. Je suis conseil en recrutement, en ressources humaines, conseil en ressources humaines dans le cabinet CCH Consulting, dont je suis la dirigeante. Ça veut dire quoi, conseil en ressources humaines? Je fais du recrutement, je fais de la formation, je fais de l'accompagnement, je fais du coaching, et j'interviens donc depuis plus de 15 ans. En tant que mentor de l'association Bernard Grégory, qui est l'association qui s'occupe de l'insertion professionnelle des docteurs. Donc à ce titre, depuis 15 ans, j'accompagne beaucoup de docteurs pour les aider à valoriser leur doctorat, que ce soit dans les sciences dures ou dans les sciences humaines et sociales. Donc voilà. Je suis ravie d'intervenir pour vous aujourd'hui. Avant la conférence, j'ai pris un petit peu de temps de discuter avec certaines personnes pour voir ce que vous attendiez de cette conférence et où est-ce que vous en étiez avec votre projet professionnel et votre situation actuelle. Beaucoup de personnes ici ont dit qu'ils étaient donc soit en fin de deuxième année ou en troisième année de doctorat et qu'ils se préparent donc en ce moment même à l'après-thèse. Valoriser son doctorat, qu'est-ce que c'est? Pourquoi est-ce si important? On est de plus en plus sur un marché du travail qui change. Il change sans cesse. On a plus d'incertitudes. On est confronté donc à une plus forte mobilité régulière dans son parcours professionnel. Il est donc important, quel que soit le diplôme qu'on ait, chacun pilote sa carrière, qu'il sache où il veut aller, ce qu'il veut faire, pourquoi il veut le faire, et ce qu'il y a à valoriser pour pouvoir le faire. Donc cette réflexion de fond sur qui on est, ce qu'on veut, elle est présente tout au long du parcours professionnel. Ce n'est plus l'entreprise qui offre une sécurité, c'est nous-mêmes qui nous donnons notre sécurité grâce au travail que nous faisons sur la valorisation de nos expériences. Il est donc important de savoir mener une réflexion sur le transfert de compétences et rester adaptable, souple, en veille permanente sur les opportunités qui s'offrent à nous et qui sont en lien avec la cohérence de notre projet professionnel. On est donc dans une dynamique de développement de compétences en continu tout le long de son parcours professionnel. Donc apprendre à nous marketer, savoir parler de nous, savoir rassurer les différentes cibles que nous devons identifier et promouvoir notre particularité. Quand on est recruteur, durant sa vie, on rencontre beaucoup de candidats. Je peux vous assurer que j'ai rencontré beaucoup de candidats dans mon parcours professionnel. À chaque fois, ce qu'on cherche quand on rencontre quelqu'un, c'est quelle est sa particularité. Sa particularité passe non seulement en termes de parcours professionnel, mais c'est un ensemble. En quoi cette personne se distingue-t-elle des autres? Qu'est-ce qui l'a fait sortir du lot? Donc on va chercher, en discutant avec la personne, bien sûr, ses compétences, de manière globale, mais aussi en termes de particularité par rapport à la personnalité. La personne dans son ensemble, Donc, comment trouver sa différence par rapport aux autres, alors que les autres, on ne les connaît pas, finalement, quand on est candidat. Comment trouver sa différence et comment la mettre en avant? Comment, moi, j'ajoute de la valeur par rapport aux cibles où je veux aller et quelle valeur est-ce que je veux apporter? C'est des questions génériques, mais c'est des questions que nous, les recruteurs, on pose ou on est à l'écoute quand on interviewe quelqu'un. Il faut donc, dans son discours, arriver à faire vraiment ressortir sa particularité. Donc, tout d'abord, dans ce travail, la particularité n'est pas seulement liée à des critères objectifs, expérience, compétences, formation, mais déjà à la base sur qu'est-ce que je cherche, qu'est-ce que je veux. Qu'est-ce qui m'a amené à prendre les décisions que j'ai prises dans ma vie, le pourquoi du comment. Pourquoi j'ai choisi telle formation. Pourquoi j'ai choisi ce doctorat, de faire une thèse déjà, et pourquoi ce doctorat-là. Pourquoi ce sujet en particulier. Qu'est-ce que j'attendais de la thèse quand je me suis inscrite, et aujourd'hui j'en suis où par rapport à ça. Vous me direz, je vous pose beaucoup de questions et je ne vous donne pas les réponses. C'est à vous de donner les réponses, bien sûr. Mais je vous dis ce à quoi nous sommes attentifs quand nous questionnons un doctorant. Donc, qu'est-ce que j'attendais de la thèse quand je me suis inscrite? Qu'est-ce que nous attendions de la thèse, mon directeur de thèse, mon laboratoire? Et où est-ce que j'en suis aujourd'hui par rapport à ça? Souvent, j'entends dire les docteurs, j'avais envie de beaucoup apporter. J'avais l'impression pas assez apporter dans ma thèse. Je me suis confrontée à des contraintes, à des limites, et j'ai dû faire avec. Et oui. Quel défi est-ce que j'ai pu relever? Et finalement, en tant que la personne que je suis, entre celle qui a démarré la thèse, et celle que je suis aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé? En quoi j'ai changé? Qu'est-ce que j'ai changé comme regard sur le monde professionnel, sur les équipes, sur le travail et sur moi-même? Après cette période d'introspection sur soi, il y a une période plus je dois faire mon homework. Mes petits devoirs avant les entretiens. C'est plus facile ça pour vous, parce que c'est déjà plus concret. Tout ce qui est introspection au précédent, c'est un petit peu plus compliqué. Mon homework, c'est simple, il faut que j'analyse mon expérience. Enfin, je dis c'est simple. C'est un travail. D'abord, analyser une expérience pour pouvoir la valoriser, c'est se poser un certain nombre de questions. On n'improvise jamais en entretien. On a tout préparé. Et ce travail de préparation passe notamment par ces 5 points qui sont au tableau. Je vais vous les expliquer. Le premier point, c'est simple. Quelle était la problématique de votre thèse? C'est quoi le problème? Pourquoi on vous a fait confiance? Dans quel enjeu, dans quel type de contexte est-ce qu'on vous a recruté? La valorisation du contexte de votre thèse est quelque chose de très important, que ce soit une thèse sur plusieurs disciplines, pluridisciplinaires, une thèse sur plusieurs pays, une thèse où vous avez vraiment travaillé sur un sujet innovant, une thèse où vous avez été seul dans votre laboratoire à travailler sur ce sujet-là, et où votre niveau de compétence dépasse, sur certains aspects, celui de vos encadrants. Une thèse avec une très forte concurrence, ou d'autres laboratoires, d'autres doctorants risquent de déposer et de publier avant vous. Il y a beaucoup de manières pour valoriser un contexte de thèse. Il faut vraiment réfléchir quelle est la particularité de mon sujet et qu'est-ce que je peux valoriser là-dedans. Réfléchir aux enjeux de votre thèse. Quelquefois, quand je pose des questions à des doctorants que j'accompagne, je leur pose la question, mais c'est quoi l'enjeu de votre thèse? Ils sont là, ils me regardent avec des grands yeux, ils ne savent pas. C'est une réflexion à mener. C'est quoi les enjeux? Enjeux techniques, les enjeux scientifiques bien sûr, mais pas que. Les enjeux économiques, les enjeux sociaux, les enjeux humains, les enjeux juridiques. Il y a tout un tas d'enjeux, de la particularité de votre sujet. Il s'agit de réfléchir et de mettre en avant lors de votre discours. Car souvent, bien évidemment, si on pense à l'entreprise, elle aura ce regard qui peut pour vous être gênant, qui met, vous êtes un docteur, ça sert à quoi d'avoir fait une thèse? Eh bien, je vais vous expliquer à quoi ça a servi de faire une thèse. Il y a un enjeu dans ma thèse, il y a un enjeu par rapport à mon sujet. Et voilà l'enjeu auquel je me suis trouvée confrontée. Le deuxième point, c'est plus un point de... Il y avait une problématique de départ, une attente. Et il y a un point d'arrivée espéré par rapport à la thèse. Quand on démarre une thèse, on a un sujet. Soit le sujet est fixe et on n'a pas la possibilité d'influencer ce sujet. Souvent, on a aussi une capacité d'influence sur le sujet. Il se modifie au fur et à mesure du temps. Quelle a été mon analyse, donc, de mon sujet? Souvent, c'est après une veille. Quelle est l'analyse de mon sujet? Je choisis d'aller dans telle et telle voie de recherche. Pourquoi? Pourquoi celle-là? Et pourquoi pas une autre? Voilà, c'est toute cette notion de pourquoi je fais les choses et pourquoi j'ai fait ces choix-là. La stratégie utilisée pour ramener à terme cette thèse dans un temps court. 3 ans, c'est court pour une thèse. Donc il y a beaucoup de choix à faire, de décisions à prendre, c'est une grosse difficulté de la thèse, cette notion d'analyse des stratégies sur la faisabilité des pistes de recherche que j'ai choisies. Les actions menées, c'est le troisième point, qu'est-ce que j'ai concrètement fait? J'ai commencé par une veille, et ensuite il s'est passé quoi? Je suis passée par quelle étape? Souvent quand j'accompagne des doctorants, donc je leur propose de réaliser un logigramme. Ce que j'entends par là, c'est le cheminement, c'est de dessiner le cheminement des étapes par lesquelles ils sont passés. Parce que quand on est en troisième année de thèse, je vous assure que souvent on a oublié tout ce qu'on a fait. Donc c'est bien de se le remémorer. Pourquoi? Parce que de toute façon, en entretien, vous aurez à en parler. Donc de se remémorer ces tâches, ces étapes. Voilà, dans un premier temps, j'ai fait ça, ensuite j'ai fait ça. J'étais sur plusieurs projets en parallèle, ce qui a amené à ça. Et on sait qu'une thèse, ce n'est pas un long fleuve tranquille. On doit monter ses sujets d'expérimentation, on doit tester, on doit revérifier, on doit communiquer dessus, on doit aider le laboratoire sur des projets quelquefois qui n'ont rien à voir avec la thèse. On doit donner les cours, etc. Donc, quelles sont les étapes par lesquelles je suis passée pour me les remémorer, pour voir le côté multitâche et très diversifié d'un projet finalement de thèse. Le quatrième point, c'est les compétences. C'est les compétences. Alors qu'est-ce que c'est que les compétences? C'est déjà un savoir-faire, un savoir-être, un savoir. donc, on approfondira cette notion de compétence dans très peu de temps pour vous montrer la multiplicité des compétences en fait dont dispose le docteur. Il y a un cinquième point, je ne sais pas pourquoi il n'apparaît pas sur ce slide, et qui est un point extrêmement important, qui est celui-là. J'ai des réalisations. Pour moi, un savoir-faire doit obligatoirement être prouvé, ou peut être prouvé, par un résultat. C'est parce que vous avez eu des résultats que vous allez faire en sorte que les gens vous fassent confiance. Donc savoir souligner vos contributions scientifiques. Mais dans une thèse, un résultat, ce n'est pas juste la publication. Il y a tout un tas de résultats. À chaque fois que vous avez réussi à avancer sur quelque chose dans votre projet, à vous donner les moyens pour faire les expérimentations, à rassembler des personnes, à communiquer, à trouver des collaborations, à améliorer un protocole, à concevoir un logiciel spécifique pour pouvoir obtenir certains résultats, à optimiser une démarche. À chaque fois que vous avez réussi à avancer dans votre projet, que vous avez pris une initiative, que vous avez réussi à argumenter et à convaincre certains publics qu'il fallait choisir cette voie, pas là et pas celle-là, vous avez eu des résultats. Donc les résultats sont très différents d'une thèse à l'autre, c'est évident. Mais, donc, essayez d'y réfléchir. Qu'est-ce que concrètement j'ai pu apporter comme valeur ? Effectivement, il y a le résultat final qui est la publication, mais avant cette publication, il y a eu tout un tas de résultats déjà qui ont amené à cette publication, ou à ces publications. Donc, travailler sur ces points-là, les préparer avant la recherche d'emploi pour pouvoir être prêt, pour pouvoir être prêt quand quelqu'un vous appelle pour vous inviter pour un entretien. Et ça, tout au long de votre parcours professionnel, pas juste maintenant. Ces 5 points s'appliquent à n'importe quelle mission qu'on vous confierait. Et comme vous avez fait un logigramme et que vous avez la vision d'ensemble de votre projet de thèse, vous pouvez appliquer ces 5 points à chaque partie ou sous-partie de votre thèse pour argumenter en disant voilà, en cette étape de ma thèse, il s'agissait de faire ça et ça, voilà ce que j'ai pu obtenir comme résultat à cette étape de ma thèse. Et donc le fait de pouvoir montrer sa thèse dans son ensemble est très important pour montrer que c'est un projet, vraiment un projet très complet, avec beaucoup d'éléments, et de remettre ça en exergue devant le recruteur. Alors, les étapes pour valoriser un doctorat, il y en a pas mal finalement, c'est déjà faire ce homework dans un premier temps. Et bien sûr, donc d'apporter la preuve de vos compétences, de connaître les besoins de votre marché, où est-ce que je peux aller, donnez-vous la possibilité du choix. Aujourd'hui, au point où j'en suis, quelles sont les questions que je me pose, quels sont les marchés qui m'intéressent, et avoir le plus d'informations possibles sur les projets professionnels, sur les marchés, sur les acteurs. Donc il ne s'agit pas seulement de connaître ses compétences, ses réalisations, mais il s'agira ensuite de savoir adapter son discours par rapport à la personne que vous avez en face. C'est là tout l'art, en fait. C'est tellement bien connaître son dossier, tellement bien connaître l'interlocuteur en face. On sait faire ce pont entre moi, ma thèse, et vous, entreprise ou acteur du public. Voilà ce que je peux vous apporter. Passez ensuite le relais. Moi, aujourd'hui, avec ma thèse, j'ai telle compétence, j'ai tel résultat. Voilà ce que je veux vous apporter. Voilà ce que je peux vous apporter, entreprise ou acteur du public. Voilà. Pour illustrer cela, pour que ce soit un tout petit peu moins abstrait, nous avons cherché, avec Madame Fournier, des volontaires qui vont nous démontrer ce que c'est que de valoriser son doctorat. Donc, il y a trois personnes très courageuses qui se sont montrées volontaires et je vais leur demander d'avancer, toutes les trois. Nous avons Adjar Himouche, Maëva Messière et Pascal Platon, qui sont donc dans des disciplines différentes. Il y a deux bioinformaticiens et une personne qui travaille en chimie. Voilà. Il y a une personne qui postule à un postdoc, on n'a pas voulu prendre que des exemples d'entreprises, et deux personnes qui postulent à des entreprises privées. Donc ces trois personnes vont donc passer devant vous en tant que candidat dans un entretien de simulation. L'objectif de cette démonstration est de montrer la multiplicité des compétences que vous allez pouvoir valoriser dans une thèse. Voilà. Vous rasseoir, merci. Vous avez sur Internet tout un tas de compétences, classements de compétences qui sont proposés, dont vous pouvez vous inspirer pour travailler sur qu'est-ce que j'ai aujourd'hui comme compétences et qu'est-ce que je peux apporter. Et vous avez notamment aussi un outil qui est très utile, qui est un outil conçu par l'association Bernard Gregory, le MEDEF et la conférence des présidents d'université, qui s'appelle MyDocPro et qui liste tout un tas de compétences qu'a le doctorant. L'idée, c'était de vous familiariser avec le langage, de savoir utiliser les bons mots pour expliquer une compétence. L'idée aussi, c'est de vous rendre conscient de toute la palette de compétences que vous pouvez avoir. Et donc, vous avez dans cette classification, après il y en a beaucoup d'autres, sur les marchés plus anglo-saxons, États-Unis, Allemagne ou d'autres pays, vous pouvez avoir accès sur Internet à tout un tas de classifications de compétences. Ici, les concepteurs ont choisi d'organiser les compétences par quatre grands pôles. D'abord, quel est mon cœur de métier ? Donc, mon cœur de métier, comment j'ai fait pour acquérir ce cœur de métier et devenir expert ? Grâce à quatre compétences. D'abord, j'ai su monter en niveau de compétences sur mes sujets spécifiques. J'ai su avoir un regard critique, non seulement sur mon propre travail, mais sur le travail des autres personnes, lors d'une veille, par exemple, des méthodes, des approches. J'ai pu gérer une foultitude d'informations lors de ma thèse, les classer, les ordonner de telle manière à ce que je puisse avoir une vision d'ensemble et pouvoir en extraire des nouvelles idées. Et puis, j'ai développé mon expertise au fur et à mesure du temps et j'ai su m'imposer à la communauté scientifique comme étant un expert dans mon domaine. Donc ça, c'est le premier niveau, cœur de métier. Un deuxième grand thème, c'est tout ce qui est qualité personnelle et relationnelle. Je vous rassure, quand vous êtes sur Internet, vous pouvez cliquer sur chacune de ces compétences et vous avez donc une formulation des compétences. Donc équilibre. il a fallu que je trouve un équilibre entre ma vie professionnelle et ma vie personnelle. Il a fallu que je trouve un équilibre, une stabilité pour pouvoir faire face aux critiques, aux regards critiques qu'il pouvait avoir sur mon travail. Écoute et empathie, c'est tout ce qui est donc relève du travail en équipe. Écouter mes interlocuteurs, être disponible pour eux, savoir travailler en équipe, savoir travailler avec des partenaires, tous les aspects de communication, les aspects de négociation, si j'ai eu à négocier des budgets, si j'ai eu à négocier des budgets pour aller à des conférences, si j'ai eu à négocier des outils pour pouvoir travailler. Les aspects de collaboration, la communication bien sûr, qu'elle soit orale, en anglais et en français, ou en d'autres langues, qu'elle soit écrite avec tout ce que ça intègre comme savoir-faire, de savoir communiquer, donc argumenter, convaincre. Les aspects d'intégrité, je garantis la confidentialité sur certains aspects de mon sujet. L'engagement personnel, l'ouverture et la créativité pour pouvoir penser out of the box et trouver des idées différentes. L'analyse et la synthèse et l'esprit critique. Donc beaucoup de choses finalement qui sont liées à qualité personnelle et relationnelle. Puis après, à tout ce qui est gestion de l'activité et création de valeur, toutes les décisions que j'ai dû prendre, la gestion du risque. Je vous montrerai tout à l'heure ce que les entreprises apprécient chez les doctorants, chez les docteurs. C'est notamment cet aspect particulier de la thèse, c'est que vous avancez sur un sujet dans le flou, finalement. Vous prenez des risques, vous êtes capable de prendre des risques. Et vous jonglez en permanence entre regards critiques sur votre travail et capacité donc à quand même acquérir de l'assurance et convaincre vos interlocuteurs que vous avez la bonne solution. Gestion du changement. Tout n'est pas inscrit depuis le départ de la thèse. C'est un perpétuel changement par rapport à l'avancement du projet. Et puis, la conduite de projet, on dit souvent, les docteurs disent souvent en entretien, qu'ils savent gérer du projet. C'est plutôt de la conduite d'un projet scientifique avec toutes ses particularités. Donc, en quoi je démontre que je sais conduire un projet et l'amener jusqu'au résultat, qui est donc la publication à la fin des 3 ans. Comment je démontre que j'ai ces capacités de conduite de projet? L'orientation client, très important pour pouvoir travailler dans le sens et pour répondre aux besoins du client, tout ce qui est propriété industrielle, propriété intellectuelle. Le management des équipes. Stagiaires, techniciens, et puis tout ce qui est stratégie et leadership. Donc, une palette de compétences très large qui nécessite d'être réfléchie, nécessite d'être prouvée. L'objectif, c'est pas juste de dire oui, j'ai cette compétence. La difficulté, c'est de prouver que vous avez cette compétence. Donc, pour que ce soit un peu plus concret, je vais proposer à Maëva Bessière de venir. Donc, je vous demanderai de respecter notre concentration à tous les deux, parce qu'on va simuler devant vous un vrai entretien. Donc, voilà. Donc, c'est un exemple de valorisation des thèses. Vous avez vu que sur le CV, donc, on a juste ressorti les contributions scientifiques. On n'a pas voulu montrer toute l'intégralité du CV. Il est important en effet que dans le CV apparaissent non pas les tâches que vous avez exécutées, mais la valeur ajoutée que vous avez pu apporter. Ça, je pense que c'est quelque chose qui est important. Et c'est de montrer en quoi, enfin la spécificité de votre sujet, en quoi votre sujet a été complexe et quelle est la complexité que vous avez su surmonter. Donc, la majorité des CV que je peux voir, personnes qui ont fait une thèse, c'est beaucoup axé sur les tâches. Je pense que c'est une erreur. Il faut montrer sur le CV ce que vous avez vraiment apporté dans votre thèse. Alors, bien sûr, l'apport qui n'était pas marqué là sur le CV, c'est les publications, bien sûr, les dépôts de brevets, les conférences, ils ne sont pas indiqués là, mais ce qu'il faut voir clairement, c'est la contribution scientifique. Et puis, il y a une partie qui n'est pas non plus là tout de suite, c'est les compétences clés. Bien évidemment, dans le CV, ce qui doit être visible très clairement, c'est les compétences scientifiques et techniques que vous pouvez apporter. La majorité des entreprises ou des acteurs aujourd'hui recrutent par moteur de recherche. Ce serait dommage de passer à côté d'opportunités parce que vous avez oublié d'indiquer vos compétences clés. Je vous le dis parce que je vois souvent cette erreur, donc je me permets de le souligner. Vous avez vu au cours de l'entretien donc avec Maëva, SIR, nous avons parlé ensemble donc, de son cœur de métier, quels ont été donc, déjà son parcours, la logique de son parcours. Ce qui est important dans un entretien, c'est qu'on comprenne les choix que vous avez pu faire pour arriver là où vous en êtes aujourd'hui, les étapes du parcours. Votre spécialité, votre cœur de métier, en quoi vous êtes expert, comment vous avez construit cette expertise. Alors vous allez me dire, mais nous construisons tous notre expertise de la même manière. Pas forcément, ça dépend des sujets. C'est très différent d'une spécialité à l'autre. Comment vous avez organisé les informations au fur et à mesure du projet pour arriver à optimiser votre travail, à arriver au moment de la rédaction du mémoire avec des informations organisées. Et puis donc, comment vous avez su surmonter des problématiques complexes, où était la complexité de cette problématique ? Vous savez qu'un CV, vous le savez certainement, ça se lit très vite. 10 secondes en règle générale pour voir, essayer de faire ressortir, de comprendre quand on lit un CV les éléments principaux. C'est pour ça que dans le CV, je vous invite à être extrêmement synthétique, de formuler au savoir-faire, donc avec. Alors ça ressort peut-être pas là, mais du caractère gras qui ressort sur les éléments importants. Et voilà. Souvent, je vois aussi des CV où on dit qu'on a fait une thèse, mais il n'y a aucune information claire sur quelle était la problématique. Quelle était la problématique et concrètement, qu'est-ce que la personne a apporté. C'est dommage. Je trouve que c'est vraiment dommage. Je vais proposer à la deuxième personne donc, de venir. On va aborder d'autres sujets, d'autres types de compétences, même si vous allez reconnaître certaines similitudes. Contribution, résultat, compétence, Vous avez vu que les questions peuvent être tournées différemment, peuvent être tournées sur autre chose, mais c'est toujours les mêmes choses qui ressortent dans le discours des personnes. Donc vraiment mettez dans vos entretiens vraiment le focus sur ces éléments-là, sur quelle a été ma contribution, qu'est-ce que j'ai fait avancer, les décisions que j'ai prises, les initiatives que j'ai prises, les risques que j'ai pris, les difficultés que j'ai rencontrées, sans trop insister là-dessus, en les positivant bien sûr, mais en restant positif par rapport à ça, mais montrer qu'une thèse, c'est pas si simple que ça. C'est pas simple. Parce que, comme vous l'avez entendu, on avance sur un projet, on a peu de temps pour monter en compétences, on nous demande déjà d'avoir des résultats très rapidement. Et ensuite, on doit conduire le projet, prendre des décisions, ouvrir des voies de recherche, se documenter, aller communiquer dessus, etc. Donc, montrer ça en entretien. Vous avez remarqué qu'il y a certains écueils à surveiller pendant un entretien. C'est déjà, c'est quelque chose que les doctorants font souvent, c'est qu'ils s'expriment souvent en « nous ». Nous avons fait, nous ceci, nous cela. C'est très difficile de s'exprimer en « je ». Très difficile parce qu'on fait partie d'une équipe et que le résultat, il n'est pas lié qu'à mon travail, à moi. Donc, qu'est-ce qu'on fait alors pour se sentir plus à l'aise? Parce qu'en fait, ce que la personne qui vous reçoit a envie d'entendre, c'est votre part de contribution dans ce projet. Bah, c'est de dire, bah, bien sûr, c'est un travail d'équipe, mais voilà quelle était ma part de contribution à moi dans ce travail d'équipe. La deuxième difficulté, c'est dans ces entretiens, c'est d'être clair sur l'aspect très technique. Vous avez vu, par exemple, vous avez eu trois entretiens sur des problématiques et sur des technologies, une science différente. C'est d'expliquer en mots clairs en quoi consistait votre sujet. Or, expliquer son sujet de thèse, quelquefois, c'est un beau challenge. L'expliquer de manière simple à ce que quelqu'un, notamment si vous avez un entretien avec des ressources humaines qui ne connaissent rien, à ce qu'il puisse comprendre. Donc, je pense qu'au départ, déjà, il faut se poser la question, comment je vais décortiquer mon sujet pour l'expliquer simplement. Alors, bien évidemment, il s'agit de s'adapter par rapport à l'interlocuteur. Si c'est un interlocuteur qui comprend votre domaine, vous n'avez pas cette problématique. Mais vous pouvez avoir des entretiens avec plusieurs interlocuteurs. Et donc, savoir s'exprimer à la fois en langage technique et en langage un peu plus vulgarisé est un élément, je pense, important à préparer en entretien. J'ai dit tout à l'heure que c'est bien de faire son homework et d'avoir réfléchi à ces différents aspects qu'on a vus tout à l'heure, les 5 points, problématique, analyse, stratégie, tâche, mission, compétences et résultats. Mais la question, c'est qu'est-ce que je veux faire? Où est-ce que je veux aller? Et là, il y a un deuxième travail donc, important de prise d'informations sur les différentes opportunités auxquelles vous pouvez apporter une valeur ajoutée. Donc, en fait, l'idée, c'est dans un premier temps de mettre votre casquette de détective et d'aller regarder dans le public quels sont les besoins auxquels je peux répondre et dans le privé quels sont les points auxquels je peux répondre. Alors, il y en a probablement beaucoup parmi vous qui n'ont peut-être pas envisagé de travailler dans le secteur privé. Ce qui est bien, c'est de se poser la question, tout du moins, et de se donner le choix et de faire ce travail de recherche. Alors comment ? comment on fait un travail de recherche, où est-ce qu'on obtient les informations sur un projet professionnel qu'on pourrait monter. La première chose, c'est les domaines. Quels sont les domaines qui existent dans lesquels je pourrais apporter quelque chose et qui me plaisent. Donc, au départ, il y a déjà cette notion de qu'est-ce qui me plaît et qu'est-ce qui ne me plaît pas. Peut-être commencer par qu'est-ce que je suis sûr de ne pas vouloir. Et donc faire une liste des choses où vous êtes sûr de ne pas vouloir y aller, pour X et Y raisons, des domaines qui ne vous plaisent pas, des environnements qui ne vous plaisent pas, etc., des types d'entreprises qui ne vous plairaient pas, ou etc. Et ensuite, se poser la question, et qu'est-ce que je veux à la place? Ça, je suis sûr que je ne veux pas, mais qu'est-ce que je veux à la place? Et quelles sont les possibilités qui existent? Donc là, si dans le secteur public, il y a un certain nombre de contacts, évidemment, à prendre par réseau. Beaucoup, vous êtes dans une phase où il faut être extrêmement curieux, sortir la tête de votre thèse et prendre beaucoup d'informations sur ce qui existe dans le secteur public, ce qui existe dans le secteur privé. Et de se poser la question, si j'avais le choix, ce serait quoi ? Si j'avais vraiment le choix entre les différentes possibilités, ça pourrait être quoi? Et être très ouvert. Très ouvert. Pas du copier-coller d'un parcours à un autre. Enfin, en tout cas, je vous invite à ne pas le faire. Je vous invite à être ouvert. Parce que, finalement, quelqu'un qui a un doctorat, est-ce qu'il ne peut pas tout faire? Est-ce qu'il ne peut pas tout faire? C'est-à-dire créer une entreprise, aller dans des secteurs différents. Il a toutes les compétences. Il s'est avancé dans un domaine qu'il ne connaît pas au départ. Monter en niveau de compétences, acquérir cette certitude, cette confiance en lui, cette assurance pour pouvoir petit à petit produire du résultat, convaincre des interlocuteurs qui sont sceptiques par rapport à ce qu'il a apporté, publier dessus, et comme on l'a vu dans les entretiens, penser toujours plus loin, être toujours dans une démarche d'optimisation de qu'est-ce que je peux apporter de plus. Comment je peux encore faire mieux? Ce regard d'autocritique, d'évaluation de son propre travail. Ben ça, je pense que les Américains, notamment les Allemands, l'ont compris. PhD, pour dans ces pays-là, c'est quelqu'un qui a cette capacité formidable de très vite cerner un domaine, de cerner toute sa complexité, d'acquérir de nouvelles compétences, de monter un projet à partir de rien finalement, aucune connaissance, et puis de le développer. Donc, quel environnement? Qu'est-ce que je veux faire? Donc, explorer au départ déjà. Me donner le choix. Quel type d'environnement? Quel type d'entreprise, si c'est dans le secteur privé? Il y a à peu près 39%, d'après ce que j'ai lu dans un article dans Le Monde récent, de docteurs qui choisissent de se tourner vers le secteur privé. Je ne me trompe pas sur ce pourcentage, mais je crois que c'est à peu près ça. Et dans ce pourcentage, il y en a à peu près la moitié, voire plus, qui se tournent vers les entreprises de plus petite taille, PME, PMI. Il y a donc se poser ces questions. Quel environnement? Pas avoir des idées reçues sur des contextes. Quel métier? On n'est pas obligé, parce qu'on a formé des chercheurs, de faire de la recherche. On peut faire tout à fait autre chose aussi. Et si je veux faire de la recherche, c'est quel type de recherche? Qu'est-ce que je veux apporter? chose. Ouvrir sur les possibilités. Alors les entreprises, quand on les questionne, on leur dit, mais voilà, ceux qui ont déjà fait l'expérience d'avoir recruté des docteurs, pourquoi ils recrutent des docteurs ? Je pense que vous l'avez compris, je l'ai dit un petit peu avant. Parce qu'un docteur, c'est apporter de la valeur. C'est quelqu'un qui sait penser différemment, out of the box, qui a cette capacité à travailler en transversalité sur plusieurs sujets, à travailler sur l'international, sur plusieurs pays. C'est monter en compétences rapidement. J'ai toujours été admirative de cette capacité à savoir s'auto-former très vite. Le sens de l'innovation, et c'est résoudre des problématiques complexes, parce qu'il y a cette capacité très importante d'analyse et de synthèse et de réflexion par rapport à, finalement, dans un domaine donné, qu'est-ce que je peux apporter. Capacité de monter des projets de A à Z. Donc, en se donnant les moyens de monter les expérimentations, d'aller chercher les ressources. Il est important de connaître aussi tous les aspects d'un projet de recherche coûte de l'argent, de connaître la valeur de votre projet, ou en tous les cas, les composantes économiques de votre projet. Savoir travailler sur plusieurs projets en parallèle. Vous avez vu tout à l'heure dans les entretiens, on parle d'organisation de travail, de conduite de projet, de comment on a conduit le projet, des aspects organisationnels, des aspects rétro-planning, des aspects « je tiens mes objectifs ». Je disais en début de conférence, la prise de risque. Vous avancez sur un sujet. Vous savez que vous avez à publier en 3 ans, mais vous ne savez pas si ça va marcher. Vous ne savez pas si ça va marcher. Donc, et vous y allez quand même. Cette capacité de prise de risque, et puis d'aller de plus en plus, donc en général en 3e année, on propose de plus en plus de choses, prendre de plus en plus de risques, parce qu'on veut de plus en plus apporter. Le leadership, au niveau international, quand on regarde souvent les plus hauts postes, ils sont occupés par des PhD, enfin au niveau international, au niveau mondial. Donc, capacité de leadership. C'est pour ça que tout à l'heure dans les entretiens, souvent je posais la question, et quelle vision donnez-vous à votre carrière ? Il y a une notion d'être capable de gérer un projet dans sa globalité, mais aussi d'ambition professionnelle. Il y a les aspects propriété intellectuelle, de connaître les mécanismes de propriété intellectuelle qui sont complexes. Puis les aspects de communication, bien sûr, en plusieurs langues, communication orale, devant des publics très critiques, communication écrite, avec des cahiers des charges exigeants. Et puis le travail en réseau, monter des collaborations, savoir trouver des ressources, savoir trouver de l'aide, monter des projets avec des partenaires. Mais ça, ça intéresse n'importe quelle structure. Ce que je propose à partir d'aujourd'hui, c'est, donc pour avancer, c'est de sortir de votre zone de confort. Mais vous l'êtes déjà, vous l'avez déjà fait, puisque vous êtes déjà engagé dans un projet de doctorat. Mais continuez à sortir de plus en plus de votre zone de confort. Bien sûr, en ayant toujours cette réflexion sur soi qu'on a vue, avec quelles questions, etc., aboutie, qui est donc prête. D'explorer le maximum de pistes par rapport à ce que vous pouvez vous offrir comme carrière. Qui est de savoir ce que vous voulez? Un bon candidat, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut. Il sait pourquoi il a fait les choses, pourquoi il a choisi ce qu'il a choisi. Il sait ce qu'il veut. Alors, ce qui est très important, c'est la notion de critère de projet professionnel. C'est pas juste de trouver un job. L'idée, c'est de vraiment savoir pourquoi vous choisissez les postes que vous choisissez. Qu'est-ce qui est au fond dans l'entreprise qui vous reçoit, qu'est-ce qui vous intéresse en termes de défis, en termes de progrès scientifique. Je ne soulignerai jamais assez l'importance du réseau, de rencontrer beaucoup de personnes, parler autour de vous, pas être centré sur vous, parler un maximum avec vos confrères, avec vos directeurs de thèse, avec les personnes qui travaillent dans votre laboratoire, avec vos fournisseurs, avec un nombre important de personnes. Le réseau est essentiel et précieux pour pouvoir obtenir rapidement les informations qu'on cherche et donc de connaître les marchés sur lesquels nous pouvons être utiles. 70% du marché de l'emploi, 70% des besoins ne sont pas visibles. Ils ne sont absolument pas visibles. Vous ne trouvez pas par annonce. Donc il faut aller chercher ces besoins en échangeant avec les personnes, avec les potentiels recruteurs. C'est pour ça qu'il faut discuter avec beaucoup de monde, et bien sûr, et à LinkedIn, et à Viadeo, pour prendre des contacts. Il faut que ça devienne quelque part un réflexe automatique, c'est un entraînement. Les Américains font ça tout le temps, tout le temps, tout le temps. Quand ils sont en recherche d'emploi, ils font 10 entretiens réseau par jour. Oh, je viens juste boire un petit café avec vous. Je vais juste vous poser quelques questions. Évidemment que les gens qui sont en poste, ils ont les réponses qui vous intéressent. Et ils sont très contents quand vous les contactez pour avoir quelques éléments d'information. Ça n'a pas besoin d'être très long. Un échange de 10 minutes peut être un échange plein d'informations. Avec beaucoup de fonds. Donc, s'inscrire sur les réseaux, être présent sur LinkedIn, s'inscrire à des groupes sur LinkedIn, les groupes qui vous concernent, prendre contact avec les interlocuteurs, sur Viadeo également, dans les conférences. En tant que mentor de l'ABG, comme je vous l'ai expliqué en début de conférence, donc j'accompagne pas mal de doctorants dans leur travail de valorisation des thèses. Et ils sont souvent en troisième année. Et quand ils vont à des conférences, je leur dis, mais vous faites comment? Qu'est-ce que vous faites pour votre réseau finalement? Est-ce que vous êtes au courant qui est présent dans la conférence? Est-ce que vous avez le courage d'aborder les personnes pour leur poser des questions sur votre futur marché, sur les contacts qu'ils peuvent avoir? Vous avez le premier niveau de réseau, qui sont tous les gens que vous connaissez. Donc il faut souvent échanger avec eux. Qui est-ce que tu connais? Est-ce que tu connais une personne qui travaille dans tel et tel secteur? Est-ce que tu me permettrais de prendre contact avec elle? Toutes ces personnes que vous connaissez connaissent des personnes qui, elles, connaissent des personnes. Donc, on a le premier niveau de réseau, le deuxième niveau de réseau, le troisième niveau de réseau. Et ça marche tout le temps comme ça, tout le temps, le networking. Et tout à l'heure, avant la conférence, j'étais avec quelqu'un dans la salle qui est actuellement en recherche d'emploi, c'est-à-dire qu'il a des entretiens. Et je lui demandais donc comment ça se passe, etc. Et donc l'idée, c'est avant d'aller dans une entreprise, par exemple, déjà d'avoir pris des informations, mais par quelqu'un qui travaille à l'intérieur de l'entreprise, bien sûr, ça me paraît capital. Et quand vous êtes dans un entretien réseau, que vous échangez, etc., etc., vous allez voir, ça peut se transformer assez rapidement en entretien de recrutement. Dès que vous sentez que les questions deviennent un tout petit peu plus pressantes, vous dites, ok, j'ai bien compris que... Donc là, nous sommes dans un entretien réseau. J'ai l'impression que vous pensez à un besoin de votre organisation. Est-ce que c'est bien le cœur ? Et à ce moment-là, donc, de reprendre un rendez-vous, parce qu'une démarche d'entretien réseau est très différente de l'entretien de recrutement. Dans une démarche réseau, c'est un entretien d'échange d'informations et de conseils, tandis qu'un entretien de recrutement est un entretien où vraiment on a travaillé sur ses bases et on se vend. C'est pas la même, tout à fait la même chose. On n'est pas dans la même logique. Donc comment chercher ? Je vous ai dit tout à l'heure que 70% des besoins sont sur le marché caché de l'emploi. Donc on va gagner beaucoup de temps en travaillant sur les trois techniques de recherche d'emploi en parallèle et en se fixant des objectifs. Pas seulement la réponse à annonce. Réponse à annonce, candidature spontanée, parce qu'on ne sait jamais, candidature spontanée, on touche le marché caché de l'emploi. Et réseau. Alors le réseau n'est pas directement une technique de recherche d'emploi, mais indirectement, puisqu'elle vous met en relation avec les besoins du marché caché. Donc pas de démarche passive. Il m'arrive dans mon métier de rencontrer des personnes qui ont 40, 50 ou plus ans et qui sont en recherche d'emploi. Et qui ont des postes managériaux. Et qui ont des difficultés. Alors, quand je leur pose la question, mais qu'est-ce que vous faites pour chercher du travail ? Ils me disent, je réponds aux annonces. Je réponds aux annonces. Je leur dis, mais il existe d'autres techniques de recherche d'emploi, est-ce que vous les utilisez ? Je dis, bah, si vous les utilisez, vous allez voir, ça va s'accélérer considérablement. Déjà, l'entretien réseau est une formidable préparation pour l'entretien de recrutement. Ça, c'est une évidence. Mais en plus, on se construit son employabilité pour demain. Les gens que vous aurez rencontrés en entretien réseau, vous pouvez les recontacter à n'importe quel moment. Même plus tard, beaucoup plus tard. Mais en ayant gardé, en étant méthodique, en ayant gardé la trace de l'entretien, qu'est-ce qu'on a changé ? Quels sont les éléments intéressants ? Sur lesquels je pourrais éventuellement reprendre contact après. Vous pourriez être le meilleur candidat du monde. Si vous n'êtes pas visible, comment voulez-vous que les recruteurs aient accès à vous ? Quelquefois, des personnes me disent « mais je ne suis pas sur LinkedIn ». Moi je dis « mais comment voulez-vous qu'on vous voit, qu'on sache que vous existez ?» C'est essentiel, c'est une base. Qu'on vous voit, on sache qui vous êtes. Un profil LinkedIn avec ce que vous recherchez, vos critères de recherche, si vous voulez, a priori, et ce que vous pouvez apporter. Vos principales contributions scientifiques. Voilà, visible, visible. Toujours regarder plus loin. Et maintenant, votre prochaine étape, c'est avoir du travail, trouver un poste intéressant après la thèse, mais ce poste va amener à d'autres postes. Toujours regarder plus loin. Toujours regarder plus loin. Et donc avoir le courage en entretien de poser des questions du type puis dans 3 ans, 5 ans, imaginons que j'ai répondu à vos attentes sur cette mission, que se passera-t-il après? Quelles sont les possibilités d'évolution dans le poste à pourvoir? Il y a très peu de candidats en fait qui posent ces questions et je suis toujours très surprise. Vous avez à construire votre parcours, donc regardez plus loin. Adapter sa stratégie de recherche. Je pense que j'ai assez insisté sur ce point. Mais on ne postule pas de la même manière à un grand compte, ou une grande entreprise, ou à une petite entreprise, ou à une association. Donc je pense que ça, vous l'avez compris. Les entreprises de taille plus réduite sont plus facilement accessibles, notamment par téléphone. Donc, n'hésitez pas à utiliser toutes les techniques et à vous poser la question comment accéder aux différents interlocuteurs. Voilà, sur ces bases, je vous propose maintenant d'avoir un échange avec vous. Vous avez peut-être, j'espère en tout cas, des questions, des remarques. Donc d'échanger avec vous sur tout ce qu'on vient de voir lors de cette conférence. Et ce sera avec un très grand plaisir, je vais répondre à vos questions. C'est pas toujours simple parce que les personnes sont très occupées. Donc la meilleure manière de le relancer, c'est déjà dans un premier temps essayer par écrit, vous renvoyer un mail de synthèse de vos principales forces. Vous dites voilà, je vous ai envoyé une candidature complète tel jour, etc., etc. J'aimerais vraiment pouvoir avoir un échange avec vous de quelques minutes sur mon profil, car je pense vraiment pouvoir vous apporter de la valeur. Si ça ne marche toujours pas, il faut appeler. Et donc la personne que vous aurez au téléphone lui dire, écoutez, je pense que vraiment que la personne qui recrute sera ravie d'avoir un échange avec moi. Ça paraît un petit peu prétentieux, mais si vous êtes certaine d'apporter de la valeur, pourquoi pas le dire? Je pense qu'il est important que je puisse avoir un entretien avec cette personne, car voilà ce que je peux lui apporter. si vous savez le faire avec tact, les gens, les recruteurs, ils ont besoin de candidats qui procèdent de cette manière. Ils ont besoin, ils cherchent ça. Donc si vous savez le faire avec tact, je peux vous garantir que vous serez en tous les cas écouté sur un entretien de quelques minutes. Rien que déjà votre courage de le faire montre que vous avez de la suite dans les idées, vous êtes déterminé.
Après une série d'entretiens pour trouver un travail, par exemple, et une réponse négative un peu typique.
Oui, un peu, que vous ne savez pas du tout pourquoi vous n'avez pas été retenu.
Oui. Est-ce que ça se fait de relancer les personnes pour savoir pourquoi on a eu une réponse négative ?
C'est une bonne question. Moi, je vous conseille très fortement. C'est une technique commerciale. Je vous conseille très fortement en entretien, déjà entretien de recrutement, à la fin de l'entretien, de dire, écoutez, j'ai été ravie de vous rencontrer. Je suis vraiment très intéressée par votre offre. J'espère, bien sûr, que je vous serai convaincue par rapport à ma candidature. Ou encore mieux, vous pouvez poser deux questions en disant, puis-je me permettre de poser deux questions. La première, c'est... Pourrez-vous donner envie de poursuivre avec ma candidature aujourd'hui ? Ça, c'est la première question. Qu'est-ce qui pourrait vous donner envie de poursuivre avec ma candidature ? Et la deuxième est un peu plus compliquée à poser, mais je vous invite à la poser absolument, c'est « Et qu'est-ce qui pourrait vous faire hésiter à poursuivre avec ma candidature ?» Donc, ça crée un rapport, une relation avec le recruteur, une franchise, et de... voilà. Ça montre vraiment que vous allez jusqu'au bout de cet échange et que vous êtes vraiment très très motivé. Et quand vous voyez que l'hésitation, que quelque chose est dit lors de l'hésitation, qui est une évidence, que vous n'avez pas, une compétence que vous n'avez pas, Déjà cette question, et qu'est-ce qui pourrait vous faire hésiter, amène à répondre aux objections qu'a le recruteur dans la tête qui fera qu'il ne vous recruterait pas. Et de répondre à ça, oui, certes, je n'ai pas cette compétence, mais vous savez, quand j'étais au début de ma thèse, je ne savais rien non plus sur ça et ça et ça et ça. Et j'ai rapidement acquis ces compétences. Donc voilà, déjà répondre, procéder de cette manière, et puis tout à fait à la fin, on sortait, avant de serrer la main pour sortir, vous dites, je vous demande une dernière chose, j'ai bien sûr envie de m'améliorer tout le temps. Si, pour une raison ou une autre, vous ne retenez pas ma candidature, ce qui est totalement votre droit, est-ce que vous pourriez avoir la gentillesse de me faire part de la raison de cette décision ? Ça me permet, moi, de pouvoir m'améliorer dans ma façon de me présenter. Voilà, mais du coup, avec un sourire gentil, et bien évidemment, j'espère que ce ne sera pas nécessaire. Voilà. Ça répond à votre question ?
Alors moi donc j'ai deux questions essentiellement. Tout à l'heure vous avez bien donc souligné en gras l'effet d'être visible, et ce qui est tout à fait important. Et donc j'ai la première question, quels sont selon vous, de nos jours et dans les jours futurs, la technique ou le moyen le plus efficace ou pertinent pour être visible afin de développer des réseaux?
Déjà, savoir où se trouvent nos cibles. Où est-ce qu'ils sont? Je cite toujours cet exemple, ça fait un peu sourire, mais si vous savez que les big boss qui vont vous recruter, ils sont dans les aéroports, allez dans les aéroports. Si vous savez qu'ils sont dans tel restaurant, ou dans telle conférence, ou dans tel petit déjeuner, ou dans tel... Allez-y. Là, donc déjà être visible en se montrant physiquement, le fait de savoir créer des relations humaines en direct, c'est une compétence que vous avez, et le fait de la démontrer, donc de pouvoir en quelques mots dire à quelqu'un votre pitch, c'est-à-dire en quelques mots vous présenter, ben voilà, j'ai souhaité vous rencontrer car j'ai vu ça et ça et ça sur votre profil LinkedIn. C'est pour ça que je suis venue à cette conférence. Je serais très intéressée par vous rencontrer dans un second entretien où nous pourrions approfondir telle et telle problématique que vous avez aujourd'hui auxquelles je pense réellement pouvoir apporter une valeur ajoutée. Et la deuxième ?
Et la deuxième, en fait, dans un contexte aussi concurrentiel et incertain des entreprises, où on a quand même une concurrence qui est imprévisible, agressive, qui vient de plus en plus partout. Quelles sont aujourd'hui les postures des entreprises dans le recrutement des docteurs, quel que soit le domaine ?
Je n'ai pas compris la question.
C'est-à-dire, est-ce que les entreprises sont de plus en plus ouvertes au recrutement de doctorants ?
Oui, la réponse est indéniablement oui, de plus en plus. Parce qu'ils sont conscients des forces que j'ai affichées tout à l'heure du docteur, et parce que dans un contexte d'incertitude, justement, le docteur a énormément de choses à apporter. Énormément. Justement, à cause de sa capacité à avancer dans le flou, à prendre des risques, à rapidement cerner un sujet, à rapidement monter en compétence, à être force de proposition rapidement, à sécuriser beaucoup de choses dans l'entreprise. À innover, bien sûr. Innover. Chaque entreprise aujourd'hui cherche ça pour se distinguer de son concurrent.
Merci.
De rien.
Alors, bonjour madame, je tiens tout d'abord à vous remercier parce que vous avez fait une analyse très parfaite de la situation. Je suis peut-être le docteur dont vous avez parlé tout à l'heure. Et j'espère que les futurs docteurs ont pris beaucoup de notes après votre présentation. Alors j'ai deux questions. Tout d'abord, vous avez parlé de la valorisation de la compétence d'innovation chez un docteur.
Oui.
Alors bon, d'après ma propre expérience, cela rend un petit peu les recruteurs sceptiques par rapport aux candidats, parce qu'ils sont là pour un résultat concret et rapide. Est-ce qu'il y a un moyen pour les rassurer par rapport à ça ?
Souvent, on choisit une thèse parce qu'on est libre d'explorer, libre de proposer. On a plus de liberté que dans une entreprise, en tant qu'ingénieur, enfin, sur tous les cas. C'est souvent ce que les docteurs m'ont dit sur la raison de leur choix de doctorat. Effectivement, cette envie de liberté peut faire peur à l'entreprise. Donc, comment rassurer un recruteur par rapport au fait que vous savez travailler avec des limitations, des contraintes, des objectifs, des manques du budget, que vous avez également en test aussi, hein. Et surtout avec des guidelines très stricts, des objectifs très stricts, etc., etc. Comment rassurer par rapport à ça ? Simplement dire, écoutez, la thèse est une expérience formidable, parce que j'ai relevé des défis, j'ai adressé des problématiques, je les ai résolues. Maintenant, j'aimerais en faire pareil. Faire la même chose pour une entreprise. Alors je sais qu'on est dans un contexte différent, mais justement, c'est parce que j'ai su m'adapter à un contexte d'incertitude, de flou. Je saurais encore plus le faire dans l'entreprise et de m'adapter donc aux contraintes que je saurais certainement parfaitement discerner. Donc voilà, c'est tout. C'est une question qui a insisté beaucoup sur l'intérêt par rapport à leur domaine, sur le fait de connaître les innovations, toutes les nouveaux produits qu'ils ont sortis ces derniers temps, le budget en R&D, etc., etc., de montrer que vous savez toutes ces choses et que vous avez tout à fait conscience que on s'inscrit dans un cadre d'objectifs et de guidelines. Et que, maintenant, vous êtes là pour ça, quoi. D'accord ? Je ne sais pas si ça répond bien à votre question.
Oui, ça m'a donné quelques idées pour...
Mais souvent, le meilleur moyen de répondre à une objection, c'est de l'inclure dans le discours avant que le recruteur ne l'ait soulevé.
Alors, ça rejoint ma deuxième question. Alors, parce que vous avez, dans la simulation, vous avez donné pas mal de questions. Alors, pas forcément, on aura ce genre de questions dans un entretien d'embauche. Et souvent, on est limité par le temps. Alors, est-ce qu'il y a un moyen pour aller directement sur l'essentiel avant que notre interlocuteur ne passe à autre chose ? C'est-à-dire à orienter ce qu'on va dire sur notre profil, même si on a très peu de temps, généralement ça ne dépasse pas une heure si c'est un entretien, le premier entretien, et après c'est un entretien technique, ou tout dépend de la discipline.
La réponse est absolument oui, il faut orienter son discours. On l'oriente sur quoi ? Sur les points qui sont soulevés dans le petit paragraphe sur le profil. Vous recherchez aujourd'hui ça. Voilà, et vous répondez point par point. Donc, capacité à innover, les compétences techniques, les compétences scientifiques, le travail en équipe, force de proposition, etc., etc. Vous répondez point par point aux éléments déjà inclus dans la formulation du profil. Et puis, ce qui est toujours bon, c'est ce qui montre qu'un entretien de recrutement est réussi, c'est quand vous avez su instaurer un dialogue avec le recruteur, et c'est donc de poser des questions ouvertes du type, alors c'est pas toujours facile, hein, je le reconnais, mais par exemple, qu'est-ce qui vous a donné envie de me rencontrer ? Donc on voit déjà qu'est-ce qui l'a intéressé dans votre profil, et là, voilà, donc insister sur vos forces, et aujourd'hui, pour vous, le candidat idéal, on souhaiterait vraiment voir le candidat idéal que vous aimeriez recruter, ce serait lequel ? Déjà, voilà, d'abord, là, vous avez posé que deux questions. Et en fait, ces deux questions vous permettent de placer vos arguments, donc qui sont basés sur ce qu'on a vu tout à l'heure, vos réalisations, vos compétences.
Merci, il faut en fait.
Parfois, il arrive de tomber sur des offres d'emploi qui sont assez génériques, standards.
C'est vrai.
Et du coup, qui ne donnent pas suffisamment à mon goût, je trouve, de précision sur le job qu'ils veulent nous donner. Vous me conseillez quoi face à ça pour préparer l'entretien et justement écrire une lettre de motivation qui pourrait faire la différence ?
Vous connaissez le nom de l'entreprise à ce moment-là ou pas ?
Oui, oui.
Donc, bah déjà de lire à fond leur site internet, les articles que vous pouvez trouver, etc. Si vous pouvez rencontrer des personnes qui travaillent à l'intérieur de l'entreprise pour essayer d'en savoir plus sur le besoin qu'ils soulèvent dans l'offre, si c'est possible. Et puis si vous avez fait tout ça, et que c'est toujours un peu nébuleux ce qu'ils recherchent, etc., bah c'est tout simplement pendant l'entretien de poser des questions vers ce que j'ai dit tout à l'heure. Mais rapidement, c'est-à-dire assez rapidement après votre présentation. Donc l'idée, je compare toujours l'entretien de recrutement à un interrogatoire de police où le recruteur pose des questions, vous devez répondre, mais finalement vous avez assez peu d'espace pour poser des questions. L'idée, c'est de casser ça. et de trouver deux ou trois moments pendant l'entretien pour poser les trois questions ouvertes que j'ai posées, que j'ai données tout à l'heure. Les trois questions, les questions sont essentiellement orientées résultats. Donc, qu'attendez-vous de la personne que vous allez recruter ou quel est le collaborateur idéal que vous souhaiteriez intégrer? Donc, déjà, pour qu'il vous donne des éléments, les éléments clés sur lesquels vous allez argumenter. Et ça, 3, 4, 5 reprises pendant l'entretien pour l'ouvrir, le recruteur. Je le vois toujours un peu comme une huître qu'il faut ouvrir pour qu'il parle de son entreprise et de la mission. Et qu'il parle de ce qu'il veut vraiment, comment il sent les choses. Effectivement, vous avez des recruteurs qui sont assez fermés. Il y en a qui naturellement sont plus ouverts. Ben, les recruteurs fermés, c'est les plus difficiles. Il faut vraiment, avec beaucoup de sourire, de relationnel, des entretiens, il y a beaucoup de sourire, il y a une bonne relation avec les candidats. Bon, c'est parce qu'on a fait un travail préalable, mais voilà, normalement c'est encore plus dans la relation. Donc vraiment, l'entretien réussi, c'est déjà montré que vous êtes en co-construction avec le recruteur. Vous n'êtes pas candidat, vous n'êtes pas doctorant. Vous êtes docteur, vous êtes dans votre tête déjà diplômé, même si vous ne l'êtes pas encore. Vous voyez, il faut avoir cet état d'esprit.
Merci.
Ma question est en lien avec l'expérience, parce que souvent dans certains entretiens, les candidats sont confrontés. Par exemple, ils disent qu'ils ont besoin de 5 ou 10 ans d'expérience pour un doctorant, bon, pour un docteur qui vient de terminer, qui n'a aucune expérience. Comment surmonter cette difficulté?
Pour moi, une thèse est une vraie expérience professionnelle. Alors vous allez me dire, mais non, c'est une formation. Ouais, non. Peut-être la première année. Mais justement, le challenge, le défi de la thèse, c'est de prendre les rênes du projet. Et de montrer, de s'autonomiser rapidement et de montrer qu'on est capable d'apporter de la valeur. Et c'est ce qui se passe souvent, enfin toujours d'ailleurs, en deuxième année à peu près. Ça dépend du projet, ça dépend du sujet, mais plus vous allez insister sur le fait que vous avez apporté de la valeur, c'est-à-dire que vous avez su comprendre la problématique, monter en compétences, que vous avez pris des décisions de façon autonome, que vous avez en plus convaincu les différents interlocuteurs que c'était la bonne décision, c'est quoi d'autre qu'une expérience professionnelle, ça?
Merci.
Question par rapport, dans un entretien un peu plus avancé, par exemple on a passé plusieurs entretiens et on commence à avoir des questions, enfin, on est un candidat possible, on commence à avoir des questions, un début de négociation. Donc là j'ai deux points auxquels j'aimerais bien que vous répondiez, c'est justement devant quelqu'un qui, j'ai déjà eu le cas, quelqu'un qui ne veut pas connaître l'expérience professionnelle de la thèse, comment gérer ce type de relation avec le recruteur.
Et vous parlez de quoi alors?
Dans un entretien, par exemple, je suis un des candidats possibles et on me pose une question, des questions du style quelle prétention salariale avez-vous? C'est lié aussi à quelle expérience est liée à la thèse, expérience professionnelle, formation. Et un recruteur qui d'emblée annonce je ne reconnais pas l'expérience de la thèse. Comme une expérience professionnelle. Comment gérer ce type de conflit? Et aussi, une deuxième question, c'est comment évaluer sa valeur pécuniaire? Dire, je prétends, mes prétentions salariales, main de trois, mes prétentions salariales sont de temps.
Donc, je ne reconnais pas la thèse comme étant une expérience professionnelle. Ah bon? C'est quoi pour vous une thèse? Vous avez à poser là un certain nombre de questions. Pour vous, une thèse, c'est quoi? Et quand la personne elle vous dit c'est une formation, vous êtes accompagné, etc., encadré, etc. Oui, certes, il y a de l'encadrement. Mais cependant, voilà, et donc quand même argumenter par rapport à ça. Et peut-être aussi poser la question, quelles conditions faudrait-il qu'il y ait pour que vous reconnaissiez qu'une expérience est une vraie expérience ? Pour pouvoir, voilà, faut avoir un petit peu de matière pour pouvoir répondre à ça. Et s'il est toujours dans cette philosophie, mais vous n'avez qu'un doctorat et donc vous n'avez pas d'expérience professionnelle, j'imagine qu'auparavant vous avez quand même dû échanger sur cette expérience. Donc, de lui dire, vous avez vu dans ma thèse que j'ai pu résoudre des problématiques, etc., etc., les mettre toujours en lien avec son besoin. Et donc moi, aujourd'hui, j'ai les compétences, j'ai prouvé que j'avais les compétences pour adresser votre problématique, pour la résoudre. Donc voilà, par rapport à ça, je vous avoue que c'est la première fois que j'entends un positionnement aussi fermé, déjà. Mais ça peut arriver. Oui, c'est bien que vous soulevez le
problème. Alors, c'était peut-être pour des hommes déstabilisés, mais c'était dans le cadre d'un
oui,
entretien.
Oui, tout à fait.
Et
oui,
on a dit qu'en gros, globalement, et c'était textuellement ça, je ne suis pas
oui,
marchand de tapis.
Voilà. Et c'est aussi, on vous provoque. On vous provoque, on veut bien vous chercher. On attend de vous que vous prouviez que le doctorat est une vraie expérience professionnelle. C'est ça qu'il cherchait. D'accord ? Et ensuite, la deuxième question, c'était quelles sont vos prétentions salariales ?
Comment évaluer les prétentions salariales ? Évaluer les prétentions par rapport à l'offre, l'entreprise, le marché sur lequel on est.
Alors, il existe tout un tas d'articles sur les salaires. Et déjà, par démarche réseau, en ayant rencontré des gens de sa cible, il ne faut pas hésiter à poser la question. Donc, pouvez-vous me parler des aspects salariaux ? Aujourd'hui, vous avez quelle rémunération ? Elle se présente comment ? Le fixe, le variable, etc. etc. Et comment se passent les évolutions salariales dans ce secteur ? Donc déjà, pour préparer l'aspect connaître les différents salaires par réseau, avoir lu les articles qui existent sur les aspects salaires des cadres, etc. Donc ça me paraît important. Et puis, le dernier recours, c'est toujours la même technique, c'est quand on vous dit quelles sont vos prétentions salariales, c'est simplement de dire, bah écoutez, évidemment j'ai quelques idées en tête par rapport à ça. Mais c'est pour moi ici qui suis important, je dirais, ce qui est important c'est que je puisse prétendre donc, au poste auquel vous postulez, vous avez certainement un budget. Quel est le budget que vous avez à proposer ? Et donc commencer à discuter sur ça. Et si le budget n'est pas en accord avec ce que vous souhaitez, et là, commencer à discuter. Ah, je vois que le budget, par rapport à ce que j'avais préparé, ou ce que j'avais espéré, il y a un écart. Est-ce qu'on peut parler de cet écart ? Et donc, commencer à négocier votre salaire. Et comment on négocie un salaire ? Eh bien, en argumentant sur tout ce que vous avez pu apporter dans votre thèse. Donc, toutes les difficultés que vous avez surmontées, l'aspect transversal, l'aspect international, etc., etc. Est-ce que j'ai répondu à votre question ?
Oui.
Très bien.
J'avais une petite question par rapport à l'avance d'entretien. En général, quand c'est une annonce, on nous demande un CV, une lettre de motivation. Mais si on veut faire postuler à un endroit où il n'y a pas encore d'offres.
Candidature spontanée ?
Oui, voilà, merci. Je me demande vraiment, est-ce que la lettre de motivation est une chose importante ? Parce que quand on voit aussi que maintenant, on peut avoir des comptes LinkedIn, etc., que les gens vont chercher des mots-clés plus que un discours qu'on pourrait faire. Je me demande vraiment l'intérêt de la lettre de motivation. Quand on nous la demande, bien sûr, mais sinon.
Bien sûr qu'on vous recrute pour vos compétences qui sont trouvables par mots-clés. Mais on vous recrute aussi parce que vous avez une motivation spécifique, parce que vous avez une cohérence, une réflexion par rapport à cette motivation. Vous postulez pas à n'importe quel type de poste. Dans un CV, on ne peut pas voir la motivation. On ne peut pas la voir. La lettre de motivation est essentielle parce qu'elle vous permet de vous distinguer par rapport aux autres candidats. Déjà, nous, en tant que recruteurs, on en reçoit énormément des lettres de motivation. Je peux vous dire que des lettres de motivation de qualité, j'en vois pas beaucoup. Qu'est-ce que c'est qu'une lettre de motivation de qualité? C'est une lettre de motivation qui, déjà, montre que vous avez compris la problématique de l'entreprise à laquelle vous postulez, qui explique clairement pourquoi vous y postulez et en quoi le fait de répondre à ces enjeux vous intéresse. Et puis ensuite, il y a un réel argumentaire dans la lettre qui est développé, qui répond point par point aux compétences que recherche l'entreprise, que vous ne connaissez pas pour l'instant, puisqu'il n'y a pas d'offre, il n'y a pas de définition de profil, mais que vous devez imaginer, que vous devez... voilà, vous devez l'imaginer. Qu'est-ce que recherchent les entreprises? Ils recherchent tous la même chose. Que vous apportiez de la valeur, que vous soyez innovant, que vous apportiez une solution pour développer l'innovation, pour faire avancer la recherche, pour faire avancer les projets. Donc, pour savoir travailler en équipe, pour trouver des collaborations. Donc, c'est pas très compliqué finalement de faire une lettre de motivation. Une fois que vous l'avez fait, une fois, deux fois, ça devient un exercice qui est facile. Mais encore faut-il être sûr que ce que vous mettez dedans soit bien adressé, soit bien d'accord avec les besoins de l'entreprise. De temps en temps, il faut tester en entretien si c'est bien d'accord. Si vous n'avez aucun appel après avoir envoyé je ne sais pas combien de candidatures spontanées, c'est que votre lettre n'est pas bonne. Elle n'adresse pas vraiment la problématique. Donc, la réponse à votre question, oui, la lettre de motivation est essentielle. Qu'est-ce qu'elle permet? Elle permet de se distinguer des autres, encore une fois, vous avez vu dans ma conférence que c'était un élément important, par la clarté de sa motivation et la clarté de son argumentaire qu'on ne voit pas sur le CV.
Merci. Bonjour, je voudrais poser une question par rapport à la posture que peut prendre un doctorant qui n'est pas encore docteur, voulant chercher un poste, par exemple, étant moi-même doctorante dans les SHS, donc il serait plus intéressant de trouver un poste en consulting pour une meilleure exploration du terrain, une vision encore plus professionnelle de ce qui se passe, mais comment se présenter n'étant encore pas docteur, c'est-à-dire que je me mets dans la posture d'un diplômé de master d'un futur docteur. Et dans ce cas-là, si vous me dites que oui, dans la posture d'un futur docteur, je rejoins la question de mon collègue par rapport aux prétentions salariales, parce que c'est très différent quand on se présente comme étant un doctorat et non un demandeur d'emploi avec un simple diplôme de master. Je vous remercie.
Donc la première question, c'était comment se présenter? Est-ce qu'on se présente comme docteur alors qu'on ne l'est pas encore? Absolument. La problématique pour vous n'ayez pas votre doctorat, elle n'existe pas. Elle n'existe pas. La probabilité pour que vous n'ayez pas votre doctorat. Donc simplement dire, mon doctorat, je l'ai en 6 mois, mais je vais bientôt être diplômé, je vais bientôt être docteur. Je ne suis plus master. Vous voyez? Donc ça, voilà. Ça, c'est une première chose. Ensuite, l'aspect salaire. Que vaut un PhD par rapport à un ingénieur, par exemple? Ben là, la question de la valorisation financière de la thèse est vraiment liée au fait que vous arriviez à prouver que votre doctorat est une réelle expérience professionnelle et tout ce que vous avez pu apporter pendant votre thèse. Dit en entretien. En 6 mois, je vais être docteur. et j'ai une expérience professionnelle. Voilà, j'ai une valeur ajoutée, des compétences, toute une panoplie de compétences. Et je souhaiterais que vous puissiez tenir, enfin voilà, je souhaiterais valoriser ces compétences chez vous. En sous-entendu, ça a une valeur, donc il faut payer.
Et vous précisez bien que je dois me présenter en tant que docteur et pas doctorant.
Pardon ? On se présente, vous dites en 6 mois je suis docteur.
D'accord, ok.
Je suis en 3e année de thèse, il me reste 6 mois, dans 6 mois je suis docteur. Normal que je vous rencontre maintenant puisque je suis en train de préparer la pré-thèse. Là, mais quand je serai recruté chez vous, je suis docteur.
Bonjour, j'avais une question par rapport au CV. Je sais que les CV français doivent tenir sur une page, et je sais que par contre, pour les CV anglophones, les personnes se détaillent beaucoup plus, elles expliquent leur parcours, le sujet qu'elles ont fait. Est-ce que ça devient plus connu, plus commun de faire ça également en France, ou c'est toujours le CV sur une seule page?
Alors déjà, l'histoire du CV, ça dépend à quelle cible. Quand on est dans le public, on a un CV dans le secteur public, on a un CV plus long, qui peut avoir 2 pages, ou même plus. Sur le secteur privé, en règle générale, c'est 1 page.
Ok, donc c'est toujours...
En règle générale, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas le droit de faire 1 page et demie, ou 2 pages quand c'est nécessaire, parce qu'il y a quelque chose dans votre CV qui explique cette longueur.
D'accord. Et j'ai également une question par rapport à tout ce qui est hobby personnel, où on nous dit tout le temps qu'il faut essayer de se démarquer, de mettre ciné, footing ou des choses comme ça.
Ciné quoi ?
Et footing, de ne pas mettre des choses trop classiques.
Loisirs, vous voulez dire ?
C'est ça, oui. Mais si on n'a pas de loisirs absolument particuliers, genre éviter de dire ciné, lecture ou...
Non, surtout pas des choses comme ça.
Voilà, mais je sais bien, mais est-ce que
vous lisez, heureusement que vous lisez.
Non, mais par exemple, genre dire que c'est de la littérature anglophone ou des choses comme ça, est-ce que ça, on peut le mettre, ou ça correspond comme de la littérature et c'est pas forcément intéressant?
Qu'est-ce qu'on met en loisir? Vous avez envie de montrer certaines facettes de votre personnalité, qui doivent bien sûr être vraies, envie de les souligner. Vous pouvez mettre un intérêt... Vous avez un goût marqué pour certains domaines sur lesquels vous lisez, dans lesquels vous cherchez à vous améliorer, etc., etc. Par exemple, si vous n'avez pas d'activité autre, sportive, associative, ou etc., etc. Mais oui, ce petit endroit dans le CV, ça permet de montrer que on a plein de cordes à son arc qui peuvent aussi être des cordes extra-professionnelles, des investissements dans des associations, d'autres choses. Ça montre la richesse d'une personnalité. Mais ne racontez, mettez pas quelque chose qui n'est pas vrai. Si vous n'avez rien à mettre, vous mettez rien, mais ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait beaucoup. On a tous des choses qui nous intéressent en dehors du travail.
Mais oui, mais si c'est des choses classiques, cours de yoga, je peux mettre cours de yoga.
Mais alors, où est le problème?
C'est que j'ai peur que ça fasse le tout trop classique, en fait.
Ouais. C'est votre droit d'aller à des cours de yoga, et ça ne fait rien.
Ok.
Faut être extrêmement souple, et ça apporte... ça apporte beaucoup de calme, de sérénité.
Okay,
ça peut être quelque chose d'intéressant à mettre, pourquoi pas? Pour faire face aux turbulences de l'entreprise. N'ayez pas peur de dire qui vous êtes, tout simplement. Beaucoup de naturel, alors effectivement, il y a peut-être certaines informations qui sont peut-être à éviter, comme les engagements politiques, par exemple. Mais, et encore, faites attention, effectivement, quel regard on peut porter sur les loisirs que vous mettez sur votre CV. Et sachez que si vous mettez, par exemple, lecture assidue de l'actualité, etc.,
qu'on peut évidemment être amené à ce moment-là de vous poser des questions sur l'actualité. Si c'est quelqu'un qui est passionné aussi par l'actualité, on va vous dire quels sont les sujets brûlants actuellement. Quand voilà, c'est ça. Voilà. Non, non, c'est pas que c'est pas vrai, c'est que vous prenez un risque à ce qu'on vous pose des questions dessus. Donc si c'est trop large, vous risquez d'être mis en difficulté.
Alors bonjour, moi j'aimerais savoir à partir de quand pourrons-nous commencer à chercher un emploi. J'entends par là que j'ai regardé il n'y a pas très longtemps sur internet, par curiosité aussi peut-être pour me rassurer, et j'ai trouvé...
Vous avez raison.
J'ai trouvé le poste.
Ah bon?
Mais je me dis, un an avant, c'est peut-être déjà beaucoup trop tôt, je sais. Du coup, j'aimerais plutôt savoir à partir de quand pourrons-nous commencer à chercher, et est-ce que ça se fait d'envoyer déjà son CV à l'avance avec un certain temps assez long, parfois.
Alors déjà, donc c'est bien de s'y prendre maintenant, le plus tôt possible et le mieux. Mais après, l'entreprise peut vous dire, mais j'ai pas de besoin là tout de suite. Mais qu'est-ce qu'il vous dit? Elle n'en aura pas dans un an. Elle ne le sait peut-être pas encore elle-même. Donc c'est déjà de créer une relation avec l'entreprise. Déjà de vous rendre visible. Déjà de montrer que vous vous intéressez à elle et que vous êtes un candidat potentiel dans un an. Moi, je pense que c'est essentiel, ça. Essentiel. J'ai vu beaucoup de cas, beaucoup de situations de docteurs qui ont déjà pratiquement eu un lien très fort avec une entreprise en deuxième année de thèse, qui ensuite ont été, par la suite, recrutés.
Et bonjour.
Bonjour.
En fait, j'avais une question. Quand on lance des candidatures spontanées, est-ce qu'il est toujours vrai que la probabilité de décrocher un job est minime, ou est-ce que c'est totalement, ça reste tout à fait relatif ou pas? Parce que d'après une... Enfin, j'ai un collègue qui s'est mis à lancer des candidatures spontanées, et qui ne trouvait pas. Donc je voulais savoir juste si c'est le cas ou pas. Quand on lance des candidatures spontanées, est-ce que c'est difficile de trouver les jobs qu'on cherche ou pas, ou...
Ça dépend de la candidature spontanée. Moi, je connais les personnes qui m'ont envoyé 3, boum, recrutement. C'est-à-dire que quand dans la lettre, on sait bien clairement exprimé, qu'on a compris le besoin de l'entreprise et qu'on a vraiment argumenté sur les éléments importants, c'est rare que ça ne marche pas. Alors les candidatures spontanées, ça, c'est quelque chose de très intéressant pour les entreprises, parce que recruter coûte très cher. Passer des annonces coûte très cher. Donc souvent, ils regardent avant de lancer une annonce quelconque, ils regardent dans les candidatures spontanées qu'ils ont reçues. Imaginez que moi, je suis recruteur, j'ai un besoin. Et quelques jours avant que je me questionne sur la formulation de l'annonce, je vois sur mon CV, ou sur mon mail, sur mon bureau, pardon, ou sur mon mail, pile le bon profil avec une lettre qui est clairement exprimée, etc., etc. Qu'est-ce que je fais? Je vous appelle immédiatement.
Et puis, j'avais une question totalement différente. En fait, quelle est la valeur pour les recruteurs d'entendre de la part du docteur des informations concernant la personnalité de celui-ci? Par exemple, est-ce que pour les recruteurs, c'est important de connaître la personnalité du candidat? Enfin, pas le côté uniquement professionnel, mais aussi le côté d'esprit, etc.
C'est essentiel. C'est une personne qu'on recrute avant tout. C'est les compétences, oui. C'est une personne qu'on recrute avant tout. Si vous n'avez pas le bon esprit par rapport à l'entreprise en question, par rapport à l'équipe, vous pouvez faire beaucoup de dégâts, je vous assure. Donc, oui, c'est avant tout, personne pour recruter, on n'oublie jamais ça. Personne avec des compétences, mais surtout une personne avec des motivations, des valeurs et un comportement, une éducation et un comportement. On dit souvent que c'est l'attitude du candidat qui fait son recrutement, oui, l'attitude que vous avez lors du processus de recrutement, votre manière de réagir, votre manière de réagir à une invitation pour un entretien de recrutement, par exemple, ou un entretien téléphonique, est essentielle. Vous pouvez faire beaucoup de dégâts en n'ayant pas la bonne attitude, par exemple en étant agressif. Donc, la semaine dernière, j'ai eu un candidat, peu importe pour quel poste, c'était un senior. Je cherchais un senior pour le poste. Et pendant l'entretien, il n'a pas arrêté de critiquer les cabinets de recrutement. Alors, il savait que j'en étais un. L'attitude des recruteurs par rapport à lui, ce que je peux comprendre, il a eu des expériences malheureuses. Et c'était maladroit de sa part de s'y prendre de cette manière. Résultat, bah, je ne l'ai pas recruté. Et ça, c'est vraiment une question de personnalité. Ça n'a rien à voir avec ses compétences. Les compétences, il les avait totalement.
Merci.
Bonjour.
Bonjour.
Donc je me demandais si ça pouvait être mal vu d'être trop travailleur, de montrer qu'on est tellement soucieux de faire du bon travail, d'être trop prévoyant et de paraître, de sembler être quelqu'un de trop stressé ou de trop anxieux peut-être. Est-ce qu'on pourrait donner cette impression-là ?
Alors il y a plusieurs choses. Il y a le fait d'être travailleur, c'est jamais mauvais d'être travailleur. Après, effectivement, j'ai rencontré des profils de personnes qui travaillaient tellement qu'ils ne savaient au bout du compte plus comment ils s'appelaient. Ils ne voyaient plus l'arbre dans la forêt. Ce n'est pas non plus quelque chose qu'on recherche. Vous avez vu tout à l'heure sur MyDogPro, le tableau que je vous ai montré sur les compétences, la notion d'équilibre. Équilibre, c'est-à-dire savoir concilier sa vie personnelle, déjà avec sa vie professionnelle, et puis garder une prise de recul. Vous avez parlé de stress, d'angoisse, etc. etc. Je pense que c'est une des compétences importantes qu'on recherche chez le docteur. C'est sa capacité à garder le recul. C'était aussi dans la notion d'équilibre. À garder le recul par rapport aux situations et à maîtriser son stress, quoi qu'il arrive. Donc il avance dans le flou, il ne sait pas s'il va aboutir, il a la pression des 3 ans, il travaille sur plusieurs voies en même temps, il a énormément de choses, et plus on avance, plus c'est plus le stress, ensuite il y a encore le mémoire de thèse, etc. etc., 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 etc. Si vous avez aujourd'hui des difficultés de gestion de ces contraintes, je vous assure quand on avance dans la thèse, justement, on change. Ça a été aussi l'objet de démonstration des entretiens qu'on a simulés devant vous. C'est qu'il y a une maturité qui s'installe, il y a un calme, et pour pouvoir prendre du recul par rapport aux situations et plus avoir cette situation de stress.
Merci.
Bien, vous avez beaucoup de questions, je suis ravie.
Alors, je m'attendais à ce que vous parliez un petit peu des pièges dans les entretiens, puisque vous n'en avez pas parlé, je me permets d'en parler. Tout d'abord, je rejoins ce qu'on a dit sur la valorisation de la thèse. Notamment, souvent on est confronté à des ingénieurs, alors j'ai rien contre les ingénieurs, on est tous des ingénieurs avant de faire une thèse, mais ils ont tendance à ne pas valoriser une thèse. C'est peut-être aussi parce que c'est question de salaire derrière. Mais un jour, on m'a dit qu'une thèse dans le monde de l'industrie, c'est pas 3 ans, c'est valorisé comme 18 mois. Alors, je savais pas trop quoi dire par rapport à ça. D'autres pièges, alors, j'ai rencontré des recruteurs qui regardaient le téléphone pendant l'entretien. Je me suis confronté à des attentes d'interlocuteurs pendant 15-20 minutes. Alors aussi, une chose qui est très intéressante, on nous demande souvent pourquoi on quitte la recherche. Alors moi, je dis
parce que j'ai envie de découvrir c'est quoi l'industrie. J'ai fait une expérience dans la recherche, je veux passer à autre chose. Mais un jour, un interlocuteur s'attendait à ce que je commence à critiquer le monde de la recherche et dire que la thèse et la recherche, c'est n'importe quoi et que j'ai plus envie d'être dedans. Alors que c'était pas du tout ça ce que je pensais. Alors, je sais pas comment faire face à de telles situations.
J'ai compris que vous avez postulé pour un poste de recherche dans l'industrie, c'est ça ?
R&D.
R&D. D'accord. Donc d'abord, par rapport à la notion de 18 mois, laissez-le dire. Il est en train de vous chercher, laissez-le dire. S'il pense qu'une thèse, c'est 18 mois. Vous ne rentrez pas dans son jeu. Vous lui dites simplement, écoutez, par rapport à cette notion, c'est votre droit d'avoir ce point de vue. Voilà, et ensuite, donc, aller sur d'autres sujets, donc ce qu'on a vu, hein, problématique, apport, etc., 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 et surtout ce que vous pouvez lui apporter, parce que c'est ça qui est important pendant l'entretien. Et donc, par rapport à la notion de vous souhaitez quitter la recherche académique,
oui.
Pourquoi quitter la recherche académique ?
Pour passer à la recherche dans le monde de l'industrie, dans laquelle on n'est pas confronté aux mêmes contraintes. Parce que dans une thèse.
Donc, si j'ai bien compris, vous avez travaillé sur un sujet de recherche fondamentale ?
Non, pas du tout, c'était un sujet technique.
De recherche appliquée ?
Oui.
Bon alors ?
Oui, mais au début d'une thèse, comme vous l'avez dite, on ne sait pas trop à quoi on veut arriver. Alors, j'imagine dans l'industrie, c'est pas plutôt la même chose. Il y a des contraintes, il y a des clients qui attendent des produits ou des solutions. Alors on sait déjà dans quelle direction on va aller, plus ou moins, par rapport à la recherche fondamentale, je vous le dis.
Oui, bah, vous lui dites tout ça. Vous lui dites, bah, oui, j'ai envie de quitter la recherche académique, ce qui est un peu normal, après une thèse. Je pense que c'est tout en mon honneur. J'ai travaillé sur un sujet de recherche appliqué. J'ai eu des résultats, j'ai démontré que j'étais orientée client dans mon projet. C'est ça que j'ai envie de vous apporter.
Et quoi, par rapport aux attentes,
par rapport au fait qu'il n'y ait plus d'académique entre guillemets dans cette recherche-là.
Alors non, il n'y avait pas notion de client dans la thèse, mais puisque c'était un sujet appliqué, notamment de la robotique et la vision par ordinateur. Donc, c'était très technique, mais ce n'était pas orienté marché. Des fois, j'entends aussi qu'est-ce qu'on peut faire avec ces thèses. Alors, moi, je n'aurais pas de réponse concrète sur le monde réel, mais je peux dire que dans le monde de la recherche, on peut faire ça et ça et ça avec. C'est pas toujours évident de convaincre avec ces arguments.
Je pense qu'on a vu pendant la conférence toutes les compétences que vous pouvez apporter en tant que docteur. Vous savez réfléchir à une problématique, faire une veille, comprendre un marché, comprendre la concurrence, donc déjà, et être en permanence sur cette veille, de connaître les plus produits et les points sur lesquels vous pouvez innover. Voilà ce que vous pouvez apporter. Sortir de la technique en argumentant sur le fait que, en tant que docteur, vous savez en fait résoudre toute problématique d'innovation parce que vous avez appris les différentes étapes. Vous avez démontré que vous aviez du résultat. Ne vous laissez pas enfermer dans un cadre, sortez de son cadre.
C'est souvent, moi, d'après l'expérience, c'est souvent des stratégies pour diminuer le montant de salaire dans la négociation. Moi, j'ai l'impression de ça. C'est surtout ça, surtout quand il s'agit de... Je ne critique pas les sociétés de services, mais c'est souvent ça. Ils préfèrent laisser une grande marge pour... C'est légitime, mais c'est aussi légitime de notre part de demander un bon salaire, par rapport au marché.
Tout à fait, mais peut-être que... Vous laisser le choix et d'aller pas seulement dans une société de service.
Sauf que des sujets appliqués chez des clients finaux, on n'en trouve pas souvent, parce que c'est souvent des missions d'un an jusqu'à 3 ans, grand max. Et c'est ce qui rend les choses un peu difficiles, et on est obligé de passer par des sociétés de services.
Donc construire de l'expérience.
Oui, ouais. Effectivement.
Et avec cette souplesse d'adaptation par rapport aux différents clients, etc., etc. Par moment, il faut être capable d'accepter une rémunération qui ne vous convient pas tout à fait, pour mieux rebondir ensuite, parce que vous aurez acquis de l'expérience, etc. Et on ne pourra plus utiliser des objections de ce type. Vous voyez ? Donc peut-être qu'il faut que vous acceptiez une proposition en ce moment qui certes n'est pas totalement dans ce que vous souhaiteriez avoir au niveau salarial, et après avoir prouvé ce que vous êtes capable de faire, ensuite vous pourrez rebondir sur d'autres types d'acteurs qui ne sont pas forcément des sociétés de services, etc.
Et par rapport au piège, bon, j'ai donné l'exemple de l'attente ou des gens qui regardent le téléphone pendant un entretien. Alors on sait pas trop comment gérer la situation. Moi, j'avais envie de s'arrêter et de partir, notamment quand il s'agissait d'un recruteur qui regardait son téléphone pendant l'entretien.
Vous dites tout simplement, peut-être que c'est pas le bon moment pour vous, souhaiteriez-vous que nous reprenions rendez-vous ? Ou peut-être que vous avez une contrainte ? Ce que je peux tout à fait comprendre. Je vois que vous êtes préoccupé, etc. Mais vous dites très, une voix très douce, pour pas que ça le heurte.
Bon, sachant que ça s'est passé à Nice, et que j'ai fait tout le déplacement, alors j'avais pas à lui dire ça. Il devait être aussi compréhensif. Non. Merci beaucoup.
Bonjour. Moi, j'avais une question concernant la lettre de motivation. Quand on envoie une candidature spontanée, est-ce que c'est nécessaire de mettre une lettre de motivation en pièce jointe ou on peut mettre la lettre de motivation dans le corps du mail ?
Moi, dans le mail, je mettrai quelques éléments d'accroche. Voilà ce que vous recherchez, moi, voilà ce que je peux vous apporter. Et puis, vous allez trouver en pièce jointe la candidature complète, qui explique en détail les contributions de ma thèse, mes motivations et ce qui me fait croire que je pourrais être rapidement opérationnel chez vous.
Voilà.
Boum. Comme ça.
Bonjour.
Oui, bonjour.
Est-ce que c'est mal vu auprès de recruteurs d'avoir fait une thèse dans un laboratoire et continuer avec eux un postdoc et après chercher ailleurs ?
Est-ce que c'est mal vu, c'est ça ?
Oui, d'avoir fait une thèse en fait et continuer dans le même laboratoire de recherche et après chercher, je ne sais pas, dans un autre laboratoire ou...
Si le postdoc est sur est vraiment quelque chose qui vous aura permis de grandir encore plus, parce que la problématique, est là, vous l'avez, vous grandissez en compétences,
oui.
Et c'est une suite logique. Une suite logique. Si vous avez vraiment à démontrer que le postdoc était nécessaire pour pouvoir aller au bout de quelque chose, vous savez argumenter par rapport à ça, non, ça ne peut pas être mal vu forcément. Ça ne peut pas être mal vu. Mais tout dépend de la manière dans laquelle vous le présentez. En effet, s'il n'y a pas eu, si c'était toujours de la même chose, par contre, je me poserai la question si c'est vraiment bien de faire un postdoc.
Bonjour. En fait, moi j'avais une question concernant le moment où le recruteur essaie un peu de cerner la personnalité de son interlocuteur ou du candidat. Lorsqu'il demande en fait les défauts, comment bien parler de ses défauts sans pour autant s'exposer ? Et faire en sorte que ça ne soit pas mal vu, en fait, ou vous poser préjudice par rapport au poste auquel on postule.
Un recruteur, ce qu'il attend de la personne, c'est l'intégrité. C'est-à-dire, on ne va pas dire qu'on est perfectionniste, etc. Vous voyez ? On va parler de vrais défauts. On va déjà montrer qu'on se connaît. Et on va les présenter de telle manière que ce ne soit pas anxiogène pour le recruteur, que ce soit pas, ça ne lui fasse pas peur. Est-ce que vous pourriez nous donner un exemple de défaut qui est un vrai défaut que vous avez, mais que, voilà, nous avons tous des défauts. Pour que je puisse vous montrer comment on peut en parler sans inquiéter le recruteur.
Je suis têtu, par exemple.
Bon, c'est plutôt une qualité, non?
Pour certains, non, parce qu'il va se dire forcément vous allez l'empêcher d'aller dans la direction qu'il veut si vous êtes très têtu et que lui vous, veut vous diriger, forcément.
Je pense pas que vous soyez têtu au point de ne pas être capable de vous remettre en question et de ne pas en tout cas chercher à comprendre le bien fondé de ce que quelqu'un cherche à vous dire.
Oui, bien sûr, quand on m'a convaincu, je vais le faire, mais si la personne, il y a d'autres personnes qui t'ont dit ça et c'est tout, vous ne négociez pas en fait. Et moi, ça ne marche pas comme ça. Si on me convainc, là oui, je pourrais changer d'avis éventuellement, parce qu'on n'est pas non plus bête à tel point de s'imposer pour quelque chose qui est pourtant réel.
Voilà. On va simplement dire, bah, écoutez, oui, je pense avoir un défaut. C'est que c'est difficile de me faire changer d'avis quand je suis sûre que j'ai raison. C'est, disons qu'il faut l'expliquer. Il faut vraiment avoir un échange là-dessus. Je ne pense pas qu'on puisse vous en vouloir. Donc expliquez dans votre thèse comment ça s'est passé, que cette capacité donc, d'être têtu, entre guillemets, c'est ce que nous avons exprimé autrement tout à l'heure par être sûr de son idée, d'argumenter dessus, de savoir défendre ses idées, etc., etc. On a quelque part, être têtu, c'est une grosse qualité. Jusqu'à ce qu'elle devienne un défaut, c'est pas tomber dans l'autre excès.
Oui.
Trop têtu n'est pas bon non plus. Donc évitez d'inquiéter par rapport à ça.
Et que diriez-vous des. On a tous entendu ces gens, des réponses classiques, des gens qui répondent voilà, c'est pas moi, je suis méticuleux, tout suivre dans les détails, pourtant c'est pas réel, ce sont des trucs classiques qu'on a tous entendus. Que diriez-vous de ces genres de réponses que les gens balancent des fois en entretien?
Ceux qui bottent en touche, ceux qui ne disent pas la vérité. En général, quand on me sort ce genre de réponse, je dis bon, et maintenant, quels sont vos vrais défauts? Est-ce qu'on peut en parler? Nous avons tous des défauts, mais moi aussi. Quels sont vos vrais défauts? Est-ce que, voilà, quels sont les points sur lesquels vous avez vraiment dû vous améliorer ces derniers temps? Donc, en général, je gratte et je cherche. Je co-construis avec la personne. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir qui vous êtes véritablement. On a tous des défauts. C'est pas un mal d'avoir des défauts, au contraire. C'est que vous connaissez et c'est que vous êtes capable de progresser. Oui ?
Très bien. Merci.
Bonjour. Mon question, c'est pour après combien de temps, par exemple ? Après combien de temps il faut arrêter avec la recherche pour vous et j'ai recommencé. Combien des années de postdoc sont bien appréciées pour aller chercher un travail dans le privé ou je ne sais pas. Si je veux continuer avec un postdoc, si après combien de temps c'est bien c'est arrêté, sinon ça devient bizarre.
C'est une bonne question. C'est une très bonne question. Combien d'années de postdoc? Est-ce qu'il faut faire un postdoc? Quelquefois, le postdoc est complètement légitime pour aller au bout d'une expérience. Quelquefois, je dirais même, ça c'est à vous de choisir, c'est votre choix. Combien de postdoc? Si en discutant avec vous, on se rend compte que le postdoc, c'est pour rester dans sa zone de confort et parce qu'on a peur de se confronter au marché, à un autre marché de travail et qu'on n'a pas grandi en compétences et que le postdoc, en fait, il n'a rien apporté de plus et d'enchaîner les postdocs, on va commencer à se poser des questions. Ouais. Donc, pas mal de faire un postdoc, c'est même pas mal d'avoir plusieurs postdocs, tout dépend du postdoc et du niveau de responsabilité, si vous avez construit sur un développement de compétences ou pas. Mais effectivement, les sociétés privées ont quelquefois un regard assez négatif sur l'enchaînement de plusieurs postdocs. Il faut arriver à leur expliquer le pourquoi du comment. Effectivement.
Ok, merci beaucoup. Moi, j'avais une autre question par rapport aux offres auxquelles on pouvait postuler. Parce qu'en fait, quand on travaille en thèse, on travaille sur des sujets qui sont très précis et ça dépend un peu des entreprises. Et les capacités qu'on a acquises, les compétences techniques, ce n'est pas forcément des compétences qu'on va pouvoir réutiliser lors de son emploi futur. Et donc, dans une offre de thèse, il y a une ou deux compétences qu'on a, mais il y en a trois autres qu'on n'a pas. Si on se sent capable de les acquérir au cours du temps, est-ce qu'on peut, de manière légitime, postuler à l'offre ?
Il faut répondre à l'offre. Et voilà, certes, je ne sais pas telle et telle compétence, néanmoins, et là, il faut argumenter.
Et ça, on peut l'expliquer dans la lettre de motivation ?
On peut l'expliquer, on peut l'aborder, il faut des phrases courtes, il faut que ce soit assez, voilà, assez direct.
Oui, j'ai pas toutes les capacités, mais je me sens capable de les acquérir au cours du temps.
Je n'ai pas toutes les capacités, je n'ai pas telle compétence.
Okay.
Mais je me vois les acquérir rapidement, comme j'ai pu lors de ma thèse acquérir rapidement telle et telle autre compétence technique.
D'accord.
C'est pas juste, on vous recrute pas juste pour vos compétences techniques. Il y a un ensemble de choses, donc c'est assez à chaque fois englobé. Vous minimisez dans votre lettre cet aspect de compétences techniques et vous rajoutez par rapport à toutes les autres compétences que vous pouvez apporter. C'est toujours qu'est-ce que je mets en avant, à quoi je donne de l'importance.
Bonjour. Ma question va un peu dans le sens de la question précédente et je vais aller par un exemple, du coup vous allez peut-être mieux comprendre. Aujourd'hui, je suis en train de faire une thèse en santé publique et je sais qu'au-delà de mes compétences techniques dans le domaine, j'ai une disposition très naturelle dans le métier de commercial. Je n'ai pas un parcours de commercial du tout, j'ai un master en biostatistique, épidémiologie, donc j'ai vraiment enchaîné sur ce parcours-là. Mais au travers d'expériences antérieures, j'ai pu quand même démontrer des qualités d'une personne qui peut très bien s'en sortir. Et je sais que c'est une disposition naturelle que j'ai en moi et que je peux vraiment développer par des formations, etc. Alors ma question, c'est de savoir, est-ce que sur une annonce, une offre où je me vois complètement dans le poste, comment est-ce que je vais arriver à convaincre mon recruteur que je suis la bonne personne, même si je n'ai pas un parcours académique de commercial, mais que j'ai vraiment des dispositions qui me permettront très rapidement de répondre à ces attentes, soit en étant formée dans l'entreprise, ou pourquoi pas en prenant moi-même des cours au travers d'une formation que je suis prête à financer. Enfin, comment est-ce que je donne vraiment envie aux recruteurs de prendre le risque de travailler avec moi ?
Encore une fois, donc ça passe par savoir expliquer pourquoi ça vous intéresse. Si vous êtes vraiment intéressé, vous sentez une vocation pour le métier de commercial. On a vu tout à l'heure dans les compétences que faire une thèse, il y a beaucoup de moments où vous avez à argumenter, à convaincre, même quelquefois à négocier, etc. etc. Donc, vous mettez en avant dans la lettre déjà qu'il y a ça. Il y a probablement dans votre parcours d'autres moments où vous avez dû être déterminé pour atteindre un objectif et que vous saviez convaincre des interlocuteurs de tout un tas de choses. Donc, vous mettez ça en avant. Et vous pourriez, pourquoi pas, commencer votre thèse. Ça peut vous paraître bien curieux d'avoir une candidature d'une doctorante pour un poste de commercial. Permettez-moi, en quelques mots, de vous expliquer en quoi je me sens absolument la vocation d'enclencher un parcours dans ce métier. Voilà, premièrement, dans un métier de commercial, voilà, on développe le chiffre d'affaires, je vois des forts enjeux, etc. Voilà, il y a tout un argumentaire que vous pouvez développer. Donc c'est comme ça que je m'y prendrai. Mais Le premier paragraphe vous provoquez un peu. Vous dites, voilà, ça peut vous paraître très curieux d'avoir une doctorante qui postule, mais laissez-moi vous expliquer pourquoi.
Il n'y a pas du tout de risque que le recruteur ait plutôt l'impression que le candidat se dévalorise, se dire comment on peut faire un doctorat et être prêt à être embauché sur un poste commercial. Enfin, je ne sais pas. C'est plutôt cette appréhension que j'ai un petit peu.
On a le droit d'avoir plusieurs envies dans sa vie. On a le droit de changer de métier. On a le droit de changer de parcours. Combien y a-t-il aujourd'hui dans le monde professionnel de personnes qui osent complètement changer de métier ? Un métier sur lequel, a priori, ils pensent qu'ils n'ont pas de compétences. Ce qui n'est pas, souvent pas vrai. Donc, on a le droit d'avoir travaillé dans la recherche et le développement. Et si ça se trouve, c'est un énorme atout pour votre entreprise. Vous serez très performante sur les aspects de veille, sur les aspects de comment développer un argumentaire innovant, sur d'autres aspects que ceux qui sont toujours utilisés dans l'entreprise depuis toujours, comprendre les aspects d'innovation de l'entreprise, etc., etc. Vous avez énormément de choses à apporter dans un métier comme ça, en tant que chercheur.
Alors, juste une dernière question. La pré-thèse, c'est difficile. Nous avons vu dans l'exemple, là j'ai terminé un poste inter, comme je vous ai dit tout à l'heure, et je suis à la recherche d'emploi. Il faut bien sûr s'auto-former en permanence.
Pour, te former à quoi ?
En permanence. Garder une auto-formation, sinon oui. On perd.
Oui.
Alors, j'aimerais bien savoir si vous avez des conseils dans ce sens. Est-ce qu'on continue dans ce qu'on a fait dans la thèse ? On veut fouiller un petit peu dans des choses qui nous intéressent. Ça rejoint un petit peu ce qu'a dit la collègue. Voir si on s'intéresse au commerce ou, je sais pas, au management. Il y a pas mal de choses qui nous intéressent, surtout en dehors de la thèse. Est-ce qu'on peut prendre cette orientation après la thèse, au moment où on est en train de passer des entretiens d'embauche ?
Donc, quand j'ai montré le slide sur la sortir de sa zone de confort, ce que je voulais un peu dire, c'est ouvrir vraiment sur d'autres choses. Vous avez, c'est normal, vous intéresser à tout un tas de choses. Donc, oui, vous avez le droit d'avoir un projet qui n'a rien à voir avec la recherche, bien sûr. Combien de PhD qui créent des entreprises ? C'est pas que de la recherche, c'est le management, etc. etc. Évidemment, et je pense que c'est même relativement simple, quand on a fait son homework, donc toutes les étapes dont j'ai parlé tout à l'heure, de convaincre qu'on est légitime dans un autre projet professionnel, si on le souhaite, que celui du jeune chercheur. Et on peut aussi profiter d'une étape dans l'entreprise en tant que chercheur pour ensuite évoluer vers d'autres responsabilités. C'est aussi, ça peut être une étape, voilà, dans un parcours pour aller vers autre chose. Tout à l'heure, il y a quelqu'un qui a posé une question du genre être chercheur toute sa vie, quelque chose comme ça. Ben non, vous n'êtes pas obligé de rester dans la recherche toute votre vie. Normalement, enfin, voilà, le PhD a ça au niveau international de formidable, c'est que ça mène souvent vers des postes d'encadrement, de projets diversifiés.
Il y a des recruteurs qui comprennent un petit peu pas ça, parce qu'on nous demande de justifier pourquoi.
Pourquoi on peut
faire autre chose ? Si je m'oriente vers autre chose, oui, il y a des recruteurs qui demandent pourquoi cette orientation. Des fois, c'est un envie, ça vient comme ça, on s'intéresse à quelque chose. On n'a pas toujours des arguments pour...
On s'intéresse à un domaine, il y a une raison pour laquelle on s'intéresse à ce domaine. Donc ça, au moins, on peut en parler. Ça m'intéresse. Et quand on cherche, quand on regarde, souvent les domaines qui vous intéressent, qui sont en dehors de la recherche, etc., il y a quand même un lien avec l'innovation. Bon. Avec le progrès, en tous les cas, scientifique, le progrès économique, le progrès, en tous les cas. Donc, voilà.
Merci.
Oui.
Et sur des sujets auxquels on s'intéresse, par exemple chez soi, sur Internet, en suivant des MOOC ou des choses comme ça, mais qui ne sont pas forcément des choses diplômantes, comment prouver qu'on a acquis des capacités dans un domaine ou sur un sujet ?
Sauf erreur de ma part, quand on passe des MOOC, il y a une évaluation à la fin du pourcentage de réussite du MOOC. Donc vous mettez sur votre CV, suivi MOOC, dans formation au pluriel, vous mettez MOOC sur telle chose, MOOC sur telle chose, tel temps et tant de pourcentage. Et c'est très intéressant, je trouve, de mettre ça. Ça montre votre curiosité, justement, et votre ouverture, parce qu'effectivement, quelqu'un qui est sans cesse dans une dynamique de formation, aussi sur d'autres choses, que le domaine technique ou scientifique, bah, c'est forcément quelqu'un qui est intéressant aussi. Voilà. Il y a une différence, c'est une manière de vous différencier.
Est-ce que j'ai le droit de mettre que j'ai participé à ce MOOC ou pas du tout, sans avoir le certificat?
Vous mettez l'information et vous expliquerez en entretien que vous n'avez pas le certificat parce que vous n'avez pas eu, souhaité payer la contribution financière. Point.
Merci.
Souhaité ou pu.
Est-ce qu'il y a d'autres questions ?
S'il n'y a pas d'autres questions, bah écoutez, je vais vous remercier pour votre participation active dans cette conférence. Et je vais en particulier remercier donc, les trois doctorants qui ont fait un travail au préalable et qui ont beaucoup travaillé donc, avec moi. Je les ai sollicités alors qu'ils sont à un moment de leur thèse extrêmement prenant. Merci à vous trois. Et merci à vous d'avoir eu tellement de questions intéressantes. Et voilà. Écoutez, je vous souhaite bonne chance pour toutes vos recherches et valorisez bien votre thèse.